Club. Marcel Neuenschwander.
Le temps s'y prête bien, c'est le moment de ressortir le vélo de la cave. Aujourd'hui, on enfourche un VTT pour pédaler en compagnie d'un vieux de la vieille, Nicolas Siegenthaler, connaisseur absolu, né à Saint-Imier. Il est aujourd'hui notamment l'entraîneur d'un champion olympique, le grison Nino Schurter.
Bienvenue au club.
Nicolas, bonjour. C'est
bonjour.
Un plaisir de vous recevoir. La première image que l'on conserve de vous, ce sont vos larmes qui ont coulé sur le plateau de la TSR au moment où Nino Schurter, votre poulain, était devenu champion olympique en juillet dernier. Rassurez-moi, vous n'avez pas pris les mouchoirs aujourd'hui.
Ah non, tu ne vas pas me faire chialer.
Mais Nicolas, quel souvenir vous gardez comme entraîneur justement de cet exploit au fond de vous-même?
Ben, c'est pas un exploit, c'est plutôt un travail de longue haleine où t'as vraiment le boulot qui est effectué et puis t'as l'impression d'avoir fait ton job, quoi. C'est surtout ça.
Et une émotion comme celle-ci, est-ce qu'elle s'efface? Jamais.
Oui, ça passe, comme tout, si tu veux. C'est que tu veux pas chialer sur la naissance de tes gamins toute ta vie, mais c'est quand même des moments qui restent, ça, c'est sûr.
Un mot sur cet aspect émotionnel, on ne peut pas ne pas en parler. Quelle est, à votre avis, l'importance justement de l'émotionnel sur la haute performance sportive?
Alors, je pense que c'est un truc très important. Pour nous, pour moi, sans émotion, ça ne m'intéresserait pas de faire ce travail. Je pense que les athlètes, c'est la même chose. Il y a parfois des athlètes qui n'aiment pas trop, qu'on génère des émotions en eux, surtout en course, mais la plupart du temps, ils aiment bien. Ils aiment bien quand même que ça fonctionne en binôme et puis qu'il se passe quelque chose.
Et cela se travaille, l'émotionnel, avant la course elle-même, avant la compétition elle-même?
L'émotionnel, pas, mais le travail mental, oui. Et c'est quand même lié. Donc il y a une gestion du travail mental et d'aller jusqu'au bout, par exemple, de ne pas se dire que c'est gagné avant d'avoir franchi la ligne, des choses comme ça. Ça, c'est très important. Puis après, on laisse les choses aller comme elles viennent, quoi.
Alors, sans entraînement, sans ce travail de base, les émotions, elles ne servent pas à grand-chose, en fait. On ne doit peut-être pas l'oublier, on parle beaucoup de cet aspect émotionnel, mais sans ce travail de base...
Moi, je pense que pour moi, le travail est essentiel. Et après, les athlètes ou les entraîneurs appréhendent les choses un petit peu différemment. Par exemple, il y a des parents que j'ai vus, les parents de Simon Hamann, quand il rentre avec ses deux médailles olympiques, il n'y a même pas d'accolade, même rien, c'est une poignée de main. Donc, moi, je ne fonctionne pas comme ça, mais j'arrive à le respecter.
Et surpris justement que ce n'est qu'une poignée de main?
Ben, sûrement que cette poignée de main veut dire autant qu'une accolade pour moi. Donc, on n'a pas à juger ça. C'est aussi une question d'éducation, de culture, de beaucoup de choses.
Donc c'est une manière de s'exprimer en quelque sorte, gérer ses émotions, ça s'apprend en compétition, notamment avant la course, avant le départ?
Je pense que oui, parce que si on regarde Nino, il était vraiment très très stressé sur la ligne, j'ai trouvé il était blanc comme un linge à Rio, et puis dès que la course était lancée, ben, il a continué à jouer comme il fait d'habitude, ça veut dire faire des sauts, des whips, de prendre du plaisir en fait.
Lorsqu'on est dedans, on n'y pense plus trop à ses émotions.
Ben, c'est-à-dire que je pense que pendant la course, il ne pense pas qu'il est aux Jeux Olympiques, qu'il faut y aller, que c'est la course. Non, il contrôle une course tactique comme les autres.
Et cette confiance, parce qu'il y a de la confiance, justement, elle provient peut-être aussi du travail qui a été fait précédemment.
Ah ben ça, c'est essentiel. Sans avoir travaillé sur ton émotionnel, sur ton énergie, sur ton estime de toi, tu ne peux pas construire cette motivation qui t'amène à des résultats et donc à la confiance.
Nicolas Siegenthaler, on l'a dit, votre collaboration avec Nino Schurter, elle date depuis longtemps, c'est le fruit d'un gros travail. Vous allez fêter, soit dit en passant, votre 59e anniversaire demain. Alors, entraîneur depuis longtemps, mais aussi enseignant, où ? Et avec qui ?
Au Marché Neuf, à Bienne, donc c'est en plein centre, 90 nationalités sur 450 élèves, un travail... pour moi, toujours passionnant, et qui a changé, c'est je pratique plus du tout le métier que j'ai appris il y a 40 ans à Porrentruy.
Et pour quelle raison?
Parce que la situation sociale s'est transformée complètement. On travaille beaucoup avec des enfants d'immigrés, on travaille avec les œuvres sociales. Quand tu fais une séance pour un enfant difficile, tu as 10 personnes, et puis souvent ça ne sert à rien. Donc c'est beaucoup d'argent qui est parfois mal investi. Et, par contre, peut-être que ceux qui en ont vraiment besoin ne touchent rien, je ne sais pas, c'est compliqué. Moi, j'essaie de faire mon boulot le mieux possible, c'est-à-dire être là, pour ces gamins, être disponible, reposer, si possible apte à les aider.
Alors l'enseignement, c'est un autre débat qu'on ne va pas ouvrir aujourd'hui, mais votre job d'enseignant avec des jeunes de 8 à 10 ans, on m'avait dit, vous êtes traîné vice-versa, en fait, quel rapport l'un avec l'autre?
Alors, le problème, c'est que quand tu travailles avec du tout haut niveau, l'après-midi ou le week-end, et puis que tu reviens en classe avec des gens qui savent à peine le français, ben, tu fais le grand écart un petit peu toutes les semaines, mais pour moi, c'est passionnant, parce qu'en fait, on me demande la même chose, on me demande de les aider, de les soutenir, de trouver en eux ce qu'ils ont de meilleur.
Est-ce qu'il y a la même réceptivité?
Ah non, avec les athlètes, il n'y a jamais de problème, parce que la motivation, elle vient d'eux-mêmes. Tandis que chez les enfants qui ont des conflits de loyauté, qui ont beaucoup de soucis, ben là, tu dois vraiment faire en sorte qu'ils comprennent d'abord pourquoi ils doivent être motivés.
Et si je vous comprends bien, le message n'est pas forcément facile à faire passer. C'est plus difficile qu'avec un entraîneur de haut niveau.
Oui. C'est plus difficile, parce que pour moi, faire comprendre à un gamin qu'il travaille pour avoir un peu de pognon et puis être capable de vivre une vie décente, puis après d'aller vers des valeurs, tout ça, c'est trop facile de parler de valeurs. Aujourd'hui, si t'as pas 4 à 5 000 balles, tu fais rien. Donc ça, ils en ont besoin. Et c'est maintenant qu'ils vont le gagner. Il y aura pas de la place pour tout le monde. Donc c'est difficile à expliquer à des enfants de 8 ans.
On ne va pas vous demander laquelle des deux fonctions prend le dessus. Il y a quand même ce job d'entraîneur qui est un job de passionné quelque part, qui est peut-être moins bien rémunéré, entre nous soit dit, qu'un job d'enseignant.
Ben, c'est-à-dire que tu pourrais prendre, je pourrais prendre 25 athlètes et je vivrais bien avec ça. Et je préfère en avoir 15. D'ailleurs, la taxation des impôts me demande pourquoi ma société ne grandit pas. Et en fait, ils ont de la peine à comprendre que moi, je veux garder une qualité, donc je ne peux pas augmenter le chiffre d'affaires. Ce n'est pas une vraie société qui veut gagner des sous.
Vous avez été nominé au Swiss Sport Awards parmi les entraîneurs de l'année. Vous n'avez pas été élu, mais cette nomination constitue quand même une reconnaissance de votre travail.
Ben, c'est sûr que quand tu vois qui était présent, t'as des entraîneurs de haut niveau à ski qui n'étaient pas dans les 3 derniers. Donc c'est un truc vraiment très important. Après, les choix, c'est de la politique. Le lobby de la gymnastique, c'est beaucoup plus grand que le lobby du VTT.
Nicolas Siegenthaler, outre les larmes à la TSR, la deuxième image que l'on conserve de vous, et vous n'en parlez pas beaucoup d'ailleurs, c'est un Nicolas Siegenthaler bien plus jeune, plié en deux sur son VTT, à l'assaut des pentes de Verbier-Grimens que vous avez remporté à 2 reprises. Je vous propose d'en reparler l'espace d'une pause musicale.
Bienvenue au club.
Toujours en compagnie de Nicolas Siegenthaler, on va dire simplement, hein, pour le présenter très brièvement, un vieux de la vie en VTT pour cause. Hein, la deuxième image que l'on conserve de vous, après on l'a dit, c'est ces larmes qui ont coulé sur le plateau de la TSR. Nicolas, c'est vraiment vous, pliant en deux, à l'assaut des pentes de Verbier-Grimens, que vous avez remporté à 2 reprises, en 90 et 91, si je ne m'abuse. C'était le grand raid, c'est toujours le grand raid. Tout d'abord, quel souvenir vous conservez de cela?
Oh ben, c'est un souvenir assez exceptionnel. Je dois dire qu'il y a, eu, pour moi, Dans l'histoire du sport, le avant et après le grand raid, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, dans la perception de ce que je suis. Moi, j'ai pas changé du tout. J'ai évolué, j'ai tout vieilli, mais c'est sûr que, par exemple, je me rappelle que j'étais allé à une Coupe du Monde à Châteaudet une semaine après la deuxième victoire, et le gars, le speaker, il m'appelait Monsieur Grand Raid à ce moment-là. Après, il y en a d'autres qui l'ont gagné 2 fois, donc. Mais ça reste une course magique pour moi. Et ce qui était aussi super, c'est d'avoir fait gagner Farny, Neuchâtelois, que j'entraînais à l'époque, et Frédéric Fraîche, une fois dans la neige. C'était des belles émotions.
C'était au début des années 90. Est-ce que vous n'étiez pas peut-être un des premiers à aborder le VTT avec une certaine rigueur, un minimum de rigueur dans l'entraînement?
Ben, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai discuté avec mon ex-femme et puis elle m'a laissé le champ libre pour m'entraîner. Donc j'ai tout de suite travaillé seulement le matin. Donc j'avais pas mal de temps et à cette époque-là, je pense même que je m'entraînais trop. C'était un peu boulot.
Vous avez cette réputation-là.
Ouais. Et avec les athlètes, tu peux pas faire ça, ça marche pas. Mais pour moi, j'étais fatigué, mais ça marchait quand même à peu près, parce que c'était ce type de course longue, mais sur des cross-country, ça marcherait pas comme ça.
Alors ce VTT, allez, on en parle, hein, parce que la discipline depuis a énormément évolué. Dans quel sens, à votre avis? Elle n'est pas si ancienne que cela.
Non, mais un cross-country, c'est extrêmement technique. Les cross-country que j'arrive à rouler sans poser le pied, ils sont trop faciles. Il y a Albstadt, par exemple, mais Nové Mesto, c'est trop pour moi. Ou même en Afrique du Sud, Pietermaritzburg, des courses comme ça, c'est beaucoup trop technique pour moi. J'ai plus envie de me faire mal dans ce genre de chute où tu passes par-dessus le guidon. Mais pour les coureurs, c'est impressionnant. Il nous faut ça. Pour être devant. Il nous faut ça. Nino, il gagne par exemple le championnat du monde à Andorre dans un dévers contre Absalon qui devait poser le pied à chaque fois. Alors que je pense qu'Absalon, ce jour-là, il était physiquement vraiment très très fort. Donc la technique, c'est un facteur très important.
C'est ce qui différencie vraiment cet aspect technique hein, du cyclisme sur route.
Oui, tout à fait. On voit bien Sagan, il était champion du monde hein, de VTT chez les juniors. Il est arrivé aux Jeux Olympiques, c'était une attraction. Et moi, j'avais dit, si Sagan gagne, j'arrête de faire l'entraînement parce que ça veut dire qu'on ne sert à rien. Et on voyait bien qu'il n'avait pas le niveau. Et on peut même dire qu'il ne savait plus aller à VTT.
On va pas trop s'étendre sur Sagan, c'est intéressant. Vous êtes un passionné en priorité du VTT vraiment plutôt que du cyclisme en général.
Je suis aussi la route et puis je m'entraîne beaucoup sur route. Mais c'est sûr que la route c'est devenu un sport assez dangereux, surtout à certaines périodes de la journée. Je pense que on va s'orienter de plus en plus vers le terrain.
Alors c'est un débat que j'aimerais bien ouvrir avec vous justement. Hein, justement le trafic automobile est toujours plus dense. Vous-même de votre côté, vous lanceriez par exemple votre gamin sur la route pour faire du cyclisme
pour s'entraîner. Aujourd'hui, ça serait mes petits-enfants plutôt, mais j'hésiterais quand même. Parce que le problème c'est de savoir à quel moment tu peux y aller. Partir de Bienne au centre de Bienne pour aller faire du vélo, c'est parfois quand même assez chaud. Il faut rassembler beaucoup d'expérience, avoir un petit peu les yeux derrière la tête. Et puis ça, un gamin, il n'a pas forcément, surtout quand il veut rouler avec la musique ou des choses comme ça qui sont vraiment extrêmement dangereuses.
On ne va pas dénigrer le cyclisme sur route, hein. On adore ça de toute manière. Par contre, le VTT, lui, son évolution n'est pas terminée. Dans quel sens ça va partir ? Parce qu'il y a une évolution technique, une évolution technologique.
Ouais, c'est ça, l'évolution technique. On arrive chaque fois à faire des nouveaux vélos avec des nouvelles cinématiques, des vélos plus légers. Et on pense qu'on est arrivé au bout. Et puis chaque année, ça se développe. Il y a eu des gros sauts avec les changements de format de roue. Mais il y a des sauts plus légers avec les changements de vitesse à un seul plateau, des choses comme ça. Et ça continue d'évoluer. Je ne sais pas comment ça va continuer avec les matériaux, parce qu'avec le carbone, on est quand même limité au niveau des épaisseurs de tubes et des choses comme ça. Donc, il faudra voir, c'est passionnant, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le lien avec la nature, avec les athlètes, et de les motiver à devenir des champions, et si possible, des gens bien.
Mais le VTT qui peut être de plus en plus fun, qui est peut-être, il y a ce côté fun qu'on entend développer aussi, même si ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus, on parle de cette discipline d'enduro, de descente.
Moi j'entraîne comme ma fille qui est 5e mondiale en descente, donc je suis quand même intéressé à la descente. J'entraîne aussi un jeune qui s'appelle Harry Montagnier, qui est champion suisse junior, qui vient de Genève. Et la descente c'est aussi passionnant, mais eux sont moins, par exemple, intéressés à devenir olympique ou des choses comme ça. C'est plus confidentiel, c'est des sports comme le canoë, c'est des sports de nature où il y a très peu de gens qui gagnent leur vie, mais ils sont passionnés. J'ai aussi la fille de l'ancien sauteur neuchâtelois Balanche, qui s'appelle Camille Balanche, qui était une hockeyeuse qui fait maintenant de l'enduro, qui est talentueuse et qui va voler tantôt en Nouvelle-Zélande pour faire sa première Coupe du Monde. On verra ce que ça donne.
Vous avez parlé de ce côté ludique, ce côté fun. Réellement, c'est une bonne manière justement d'aborder le vélo pour les jeunes.
Ah, je pense que c'est fondamental. Hier soir, j'étais pas plus tard que hier soir, j'étais dans un club de la VVS, la Châtel-Saint-Denis, où ils sont en train de monter un immense bike park, ce sera un outil de travail technique du VTT, technique, ludique, pour des enfants de tous âges. Et je pense que ça va partir dans ce sens-là, j'espère en tout cas.
Nicolas Singenthaler, le temps s'écoule très vite. Hein. On sent que vous êtes un passionné, on pourrait encore discuter pendant des heures. mais voilà, merci d'être venu dans notre studio. Il y aura d'autres sujets peut-être qu'on pourra aborder ultérieurement, notamment celui de la compétition avec Nino Schurter. Ça sera pour une prochaine occasion. Merci et bonne fin de journée.
Merci à vous.
Bienvenue au club.